Et pour parler de tous ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir autour de la table Bruno Arcadipan. Bonjour Bruno, vous êtes vice-président du MEDEF et le président d'Action Logement. Bienvenue sur le plateau. À vos côtés, Christian Saint-Etienne. Bonjour Christian, économiste et auteur de Trump et nous, comment sauver la France et l'Europe aux éditions Edith Jacob. Et face à vous, Anthony Morlet-Lavidali. Bonjour Anthony, économiste chez Rex et Code. Je vous l'ai dit, le premier thème, et on va commencer par vous, Bruno, peut-être, vous êtes le principal concerné ici pour cette journée spéciale CAP-PME. C'est quelles urgences pour retrouver le chemin, peut-être les chemins de la prospérité? Ça ne sera pas sans vous, les entreprises. Et ce matin, on entend l'ambiance ici, on écoute les chefs d'entreprise, on les a reçus tout au long de la matinée dans Good Morning Business. Le sentiment qui domine, je le disais, c'est l'angoisse. On atteint un point de rupture, vient de dire Patrick Martin, président du MEDEF. C'est pas une ambiance super saine à l'approche de la campagne présidentielle.
En effet, le climat économique nourrit, vous venez de le dire très justement, une forte inquiétude parmi tous les chefs d'entreprise français. C'est logique. Croissance atone, hausse du chômage, progression des défaillances d'entreprises, hausse du niveau des entreprises qui connaissent ces défaillances, dégradation du commerce extérieur. Enfin, tout ça sont des signaux qui ralentissent évidemment l'économie et qui angoissent l'ensemble des chefs d'entreprise. Peut-être... rappeler en quelques mots que le MEDEF, dont j'ai la chance et l'honneur d'être le vice-président en charge des adhérents, ce sont 240 000 adhérents, donc entreprises.
Oui, c'est ça qu'on peut dire, Bruno, c'est que vous êtes en contact direct avec toutes ces entreprises. Vous êtes le meilleur baromètre, certainement, de l'humeur des chefs d'entreprise aujourd'hui.
Alors, le meilleur, je sais pas, mais en tout cas, je vais essayer, je vais tâcher de vous transmettre un certain nombre d'éléments. 240 000 entreprises qui, pour la plupart, sont des PME. Il faut le savoir, la moyenne de nos entreprises au MEDEF est de 47 salariés. Donc, évidemment, pour casser tout de suite un peu les codes, nous avons le CAC 40. Mais comme son nom l'indique, le CAC 40, c'est 40 entreprises et pas 240 000. Ces 240 000 sont aujourd'hui répartis sur l'ensemble du territoire, évidemment hexagonal, mais aussi ultramarin. Oui. Et pour un petit nombre d'entre elles, elles travaillent partout en Europe et dans le monde. Évidemment, les problématiques sont très légèrement différentes pour les très grands groupes qui restent des locomotives françaises, mais
Qui sont très tournés vers l'international,
très tournés vers l'international, mais sur le marché intérieur.
Et oui.
La stabilité aujourd'hui, il y en a plus. Faut être extrêmement clair. Visibilité encore moins. Et puis les erreurs politiques commises ces derniers temps sur l'économie. Puisqu'au MEDEF, on ne fait pas de politique, on ne fait que de l'économie.
On fait un peu de politique aussi de temps en temps au MEDEF, non, quand même.
Non, on évite, c'est pas notre rôle. Mais quand le gouvernement prend la décision, par exemple, de geler les allègements de charges...
On va y venir.
Après avoir annoncé une hausse
augmentation du SMIC
de 2,4%, vous avez un effet ciseau que nos amis vont commenter, mais c'est un effet ciseau mortifère.
Christian, on a vu Bruno Arcadipan a très bien posé la big picture du contexte de l'environnement macroéconomique, qui est pas bon très clairement. Il y a évidemment cette crise au Moyen-Orient qui pèse énormément. Il y avait eu la crise inflationniste avant. Le problème, il vient d'où? De l'extérieur? Est-ce que c'est un choc exogène ou aussi de l'intérieur avec une instabilité politique qui n'aide pas beaucoup à y voir clair?
Donc les deux, évidemment, l'extérieur, mais l'extérieur, c'est a frappé un pays qui était très affaibli, qui n'a pas fait les réformes nécessaires. On est entré dans la crise du Covid avec un déficit de 3% quand les Allemands étaient en excédent. On s'en est jamais remis, puisqu'ensuite on est passé de moins 3 à moins 6. On est revenu à moins 5. Si on était rentré à zéro, on serait à moins 2. Donc on a un problème structurel absolument massif. On a également, sur cette situation structurelle de l'économie, une dissolution ratée et ensuite un Parlement ingérable qui est obsédé par l'augmentation des impôts, notamment sur les plus productifs, avec cette qualification de riche, mais quand on la soulève, 90% des fameux riches sont en fait des entrepreneurs qui créent des emplois. Donc si on les décourage, on va pas avoir une économie qui boume. Donc on a une accumulation de problèmes qui font que l'économie française sous-performe. Alors là, les chiffres tombent depuis un an et demi. Nous sommes passés en dessous du niveau moyen de revenus par tête de l'Union européenne, alors que nous étions à 7 ou 8% au-dessus il y a quelques années.
Pour la quatrième année consécutive, le PIB par tête français est inférieur à la moyenne européenne.
Voilà, donc c'est un pays qui est dans la glaise.
Ça provérit
qui a essayer de marcher dans 20 centimètres de glaise. Donc quand vous produisez un effort colossal juste pour avancer, et si vous avez un discours anti-prise de risque, anti-investissement de long terme, ben vous avez un pays qui a une croissance inférieure à celui de l'Union européenne. Et je rappelle ce dernier chiffre.
Attendez, Christian, on n'est pas si mauvais. On va voir avec Anthony, mais on n'est pas si mauvais comparativement, quand on regarde.
Non, mais on a depuis 20 ans, on a
une économie. L'Italie.
Non, mais depuis 20 ans, on a une économie qui tourne à 1% par an.
Oui.
Et quand vous avez 57 points de PIB, de dépenses publiques, ça passe pas. C'est comme une énorme carrosserie avec un petit moteur.
Bon. La priorité, c'est les finances publiques, c'est ça. Vous êtes économiste, Anthony Morlaix-Lavidelli, chez Rex & Code, directement au contact des entreprises aussi. Qu'est-ce qu'elles vous disent? C'est quoi l'urgence? On a posé le contexte macroéconomique, on voit qu'il n'est pas florissant. Qu'est-ce qu'il faut changer?
Mais ça a été très bien dit. En fait, le sujet vraiment de fond qu'on a là, c'est que oui, on a un choc extérieur qui vient pénaliser la croissance. Oui, on a une conjoncture qui n'est pas très porteuse, mais on a des problèmes structurels de fond et qui ne sont pas traités. Ça a été très bien dit par Christian. On n'a pas fait les réformes. Donc quand on vient, ça vient d'un problème de fond qui est qu'on a beaucoup de difficultés en France à comprendre que la richesse, elle est produite, créée par les entreprises. Et donc on vient mettre des pénalités et rendre non compétitif pour partie un bout du tissu qui normalement est censé nous permettre justement d'être prospère. Et ça, c'est une vraie mécompréhension de fond, je pense. Il faut être en capacité d'avoir un environnement pour les entreprises qui est compétitif au niveau européen. Et là, on voit bien, d'une part, il y a eu des efforts côté premier quinquennat Macron pour revenir dans une forme de moyenne européenne.
On a quand même vécu 10 ans d'un environnement à peu près pro-business, de stabilité
fiscale,
d'assouplissement normatif, du droit du travail.
C'est vrai, mais on n'avait pas rejoint la moyenne européenne. Donc d'une part, on est toujours à un niveau trop élevé. Et en plus, on est en train de s'en écarter par le haut et en créant en plus un cadre qui est non stable. Donc là, il y a une vraie instabilité en plus qui vient rajouter en quelque sorte des effets de bord et qui crée de l'incertitude et décourage pour partie des investissements et pour partie des créations d'emplois. Donc là, on a un vrai sujet de fond et c'est plus les problèmes structurels de la France qu'il faut régler plus que la conjoncture.
Bruno Arcadipan, on a l'impression qu'il y a une rupture entre l'économique et le politique ici à Cap PME. Patrick Martin l'a dit, on a atteint un point de rupture. Est-ce que vous comprenez encore avec le monde politique? Ou plutôt, est-ce que le monde politique vous comprend, vous, entreprise, moteur de la prospérité, comme vient de le dire Anthony?
En tout cas, on fait des efforts pour essayer de les comprendre. Mais je crois qu'il y a une différence très importante qui s'accroît entre la théorie et la pratique. J'ai entendu tout à l'heure le ministre Papin dire qu'on n'était pas si mauvais, etc.
Il nous a proposé un deal.
Il nous a proposé un deal, mais comme dans tous les deals, il faut connaître ce qu'il compose. Regardez, je vous donne juste deux exemples. On dit que ça va mieux. L'IPC a augmenté en avril.
L'indice des prix à la consommation, l'inflation.
Le taux d'inflation, si on veut le dire, oui, pour nos téléspectateurs, oui, de façon un peu simple. Donc cet IPC serait à 2,2 en avril, alors qu'il était à 1,7 en mars. On peut pas dire que ce soit un signal super positif. Le chômage.
Ce qu'il dit, c'est que ça reste inférieur à l'inflation qu'on voit ailleurs en Europe.
Le chômage, il est en progression aussi. Donc c'est deux facteurs forts, le taux d'inflation et le chômage. On n'en parle plus depuis 10 ans du chômage, sauf qu'aujourd'hui, il vient de dépasser la barre des 8%. Et
oui.
On est à 8,1%. Et on fait quoi? On fait le gel des allègements de charges.
Ça, c'est un vrai sujet. Hein. On en a beaucoup parlé, les chefs d'entreprise en parlent beaucoup. Vous n'acceptez pas ce gel des allègements de charges dû à la hausse du SMIC.
C'est mathématiquement impossible. 2,4% plus le gel, ça fait près de 4,5% pour une structure, pour une PME qui a beaucoup de main-d'œuvre de services, par exemple une société de services ou une petite industrie, une PMI, etc. je le redis, c'est mortifère.
Bon, ces éléments de charge, c'est 2,2 milliards d'économies, hein, a annoncé Bercy. Bon, on sait qu'on a 120 milliards, on va parler budget hein, tout à l'heure. On a 120 milliards à trouver uniquement pour stabiliser la dette. C'est trop demandé aux entreprises, oui. Le gel de ces éléments de charge.
Trois éléments très rapidement.
Anthony Morlaix,
parce que ce que vient de dire Bruno est très important. On a un taux de chômage qui remonte, ce qu'on ne voit pas déjà dans le reste de la zone euro. On a l'écart le plus important défavorable à la France vis-à-vis de la zone euro depuis près de 30 ans. Donc on est déjà dans une situation dégradée. Donc demander un effort supplémentaire est probablement pas la bonne manière de faire. Deux autres éléments. Premièrement, on a des entreprises qui, nettes des aides, sont prélevées plus en France que dans le reste de la zone euro, donc déjà un écart différentiel négatif. Et sur le coût du travail, quand vous prenez la moyenne industrie-service, le coût de l'heure de travail en France est autour de 46 euros. C'est comparable à ce qu'on voit en Allemagne. Mais l'Allemagne a un PIB par tête 20% supérieur au nôtre. C'est-à-dire qu'on s'offre un coût du travail de pays riches que l'on n'est pas. Donc notre coût du travail est déconnecté de notre niveau de gamme.
Et comment explique cet écart? C'est quoi? C'est le niveau des prélèvements?
Notamment le niveau des prélèvements, ce qu'il y a entre le super brut et le super net pour financer un modèle social mieux disant, mais qu'on n'a plus les moyens aujourd'hui de s'offrir. Et ça, c'est un vrai sujet.
Christian, sur le sujet des allègements de charges, moi je suis désolé, je peux prendre la perspective budgétaire. Je me dis, je dois atteindre 3% en 2029, 2030, il va falloir faire des efforts. Est-ce que l'indexation automatique des allègements de charges jusqu'à 3 SMIC est un système finalement qui nous coûte trop cher? Je rappelle qu'on est passé de 50 milliards à 80 milliards d'allègements de charges en 6 ans seulement depuis le Covid. C'est une
Alors,
question.
Je vais vous surprendre et j'espère que je ne vais pas me fâcher avec Bruno, mais
on peut débattre.
Je pense que le problème, c'est pas le gel des allègements de charges et le coût de 2 milliards.
Oui.
Le problème, c'est qu'on a un mécanisme de relèvement du SMIC qui ne correspond plus à la situation économique du pays. Le relèvement du SMIC, c'est l'inflation plus la moitié du revenu moyen. Ça, c'est une situation de pays en croissance forte. Disons, si on était à 2,5 ou 3% de croissance, pourquoi pas. Mais dans un contexte extrêmement dur, parce qu'en réalité, tout le monde attend la rupture. Puisqu'on n'est pas capable de faire la réforme, tout le monde se dit, on aura un choc comme celui de l'Italie qui, il y a 10 ans, a été obligé d'appeler Draghi pour faire les réformes,
oui.
C'est-à-dire de sortir du système politique pour aller chercher un expert. On a eu la Grèce, c'est-à-dire à chaque fois on attend le mur pour faire les réformes. On a l'impression que la classe politique française ne comprend pas et qu'elle attend le mur. Dans ce contexte...
Est-ce que vous y croyez à ce mur, Christian Saint-Etienne?
Oui,
on en parle depuis 10 ans, il n'arrive jamais. On est protégé par l'euro, on est protégé par l'Allemagne,
non,
d'une certaine mesure.
Alors d'abord, on n'est pas protégé par l'euro. L'euro, en réalité, est au service des nations compétitives. Quand vous êtes une nation non compétitive, l'euro vous étrangle. Nous avons un coût du travail qui, Anthony l'a dit, ne correspond pas à notre économie. Donc, nous avons certainement, par rapport à notre compétitivité et productivité, nous avons un coût du travail qui est 15 à 20% supérieur à ce qui serait souhaitable.
Oui.
Donc, je fais une proposition, bon, qui va faire hurler tout le monde, mais OK pour le gel des allègements de charges, mais en même temps, alors tout le monde va hurler, c'est pas un sujet. Je ferai un gel des augmentations du SMIC pendant 18 mois.
De l'indexation, non mais
et,
c'est ça.
Et donc pendant 18 mois, et non seulement ça, mais je ferai une réforme structurelle qui ramènerait l'indexation du SMIC à 20% de la hausse du salaire moyen en plus de l'inflation. Voilà.
Pourquoi? C'est pas ça le sujet, Bruno.
Termine sur ce point. Ouais. Pourquoi? Parce que le mécanisme actuel a produit une smicardisation de la France. Aujourd'hui, le chiffre est très impressionnant. Vous avez 60% de la population active qui vit entre le SMIC et 600 euros de plus. Et avec des gens qui, lorsque vous commencez en bas de l'échelle, votre possibilité de progression est extrêmement limitée. Donc on a un pays qui s'est paupérisé et qui a cassé les perspectives de croissance. C'est pour ça que, pour la première fois depuis une quinzaine d'années, je vais dire une horreur supplémentaire. Non seulement je pense que le mur arrive, mais que c'est souhaitable puisque c'est le seul moyen de faire les réformes.
Bon, vous êtes d'accord avec ça? Il y a un deal de, allez, les entreprises font un effort, mais en contrepartie, on réforme le système, quoi.
Je veux pas me répéter, mais c'est l'effet des deux qui est dramatique. C'est l'effet ciseau. Donc, hausse du SMIC et gel. Je reviens une seconde sur ce que vous disiez tout à l'heure sur le mur.
Oui.
Mais je vais vous dire, le mur, on commence à le regarder de plus en plus près. Je vais vous donner un exemple précis, qui est un, un élément essentiel lorsque l'on regarde le monde économique et notamment le niveau de difficultés que rencontrent les entreprises. L'AGF.
Oui.
L'AGF, en fait...
Expliquez pour ceux qui nous écoutent ce que
c'est.
C'est
l'outil qui permet d'avancer les salaires, notamment aux entreprises qui sont en redressement judiciaire.
Voilà.
L'AGF a subi une hausse de 23% au premier trimestre 2026. Donc c'est énorme, 23%.
C'est un indicateur avancé très ça sensible remet, de l'économie.
Et ces défaillances mettent en danger, hein, puisque lorsqu'on est en redressement judiciaire, malheureusement, souvent, ça va vers la liquidation, 75 000 emplois. C'est on a le nez sur le mur.
Voilà, c'est ce qu'il est dit hein, ce matin, hein, le mur des défaillances arrive. On a déjà eu Anthony Morlaix à Vidali, 70 000 défaillances l'année dernière. Il faut donner un peu des repères. Normal, en temps normal, quand l'économie vivote à 1-2% de croissance, on est à 50 000 défaillances par an. C'est normal que les entreprises naissent, et c'est normal que certaines meurent aussi, le capital tourne. Là, on est quand même à des niveaux très élevés. Et si j'entends ce que me dit Bruno Arcadipiane, c'est le pire reste à venir.
Mais en tout cas, on n'a pas atteint le fameux plateau haut qu'on espérait atteindre. Justement, on est en train de continuer de progresser. Et je confirme ce que disait Bruno. Nous, on travaille avec l'AGS et on voit bien ces indicateurs avancés qui montrent que pour l'instant, ça continue de progresser à des niveaux qu'on n'anticipait pas il y a encore un an. Donc là, ça devient très inquiétant. Ce qui est paradoxal, c'est de demander des efforts assez importants à quand même l'agent qui semble le plus fragilisé à ce stade. Alors, on sait bien que du côté de l'État, il n'y a pas de marge de manœuvre, mais les entreprises entrent dans le dur. Enfin, véritablement, les bilans se dégradent, les trésoreries aussi. Donc, c'est quand même étonnant.
Pardon, je vous coupe, Anthony. Votre dernière étude, Rexecode BPI France, était plutôt optimiste la semaine dernière sur la trésorerie et les perspectives d'investissement des entreprises.
Ce que l'on dit, c'est qu'à ce stade, ça tient. Faut pas oublier qu'elles sont plus fragilisées qu'avant le choc de 2022. Donc, à partir d'un meilleur point en 2022, là, il y a une marche à la baisse qui a été franchie. Et donc, elles rentrent dans le choc plus fragilisées. Et le pire reste à venir. Donc, je crois qu'il faut quand même être prudent. Et à la fin, si les entreprises sont trop affaiblies, on sait bien, c'est quand même des gros problèmes de croissance dans la durée. Et on voit bien qu'on a un problème de potentiel fondamentalement. C'est ça qu'il faut arriver à redresser. Et demander un effort aux ménages, évidemment, bien réparti. Mais ça me semble assez sain. Aujourd'hui, on se retourne trop vers les entreprises comme si les marges étaient de ce côté-là. Et ça me semble être un cercle très vicieux que la France aime alimenter. Et c'est pas le choix de nos voisins européens, c'est ça aussi qui est paradoxal, c'est que on est à contre-courant absolument de ce qui se passe, mais de l'autre côté de la frontière. Donc je veux dire, faut être quand même très prudent parce que les divergences à la fin ça coûte cher dans le temps et je ne pense pas qu'il y a un mur devant nous. En revanche, le lent déclin, j'y crois beaucoup et je pense que gérer ce déclin-là est quand même très mortifère et on voit bien, ça crée des problèmes de cohésion sociale absolument monstrueux dans le pays.
Christian, le pire est à venir hein, nous dit Anthony et cette discussion qui elle aussi est à venir. Le pire, ce sera peut-être le prochain projet de loi de finances avec cette grande discussion sur qui doit payer la crise, qui doit payer les financements absolument indispensables à venir sur la transition numérique, démographique, environnementale et écologique. Bercy vient de lancer cette initiative. C'est les ministres de l'économie et du budget qui ont demandé à 4 experts indépendants, dont Xavier Jaravel, invité récurrent des experts, de faire des préconisations d'ici le mois de juillet sur les voies et moyens de redresser les comptes publics. C'est utile ce genre de rapport ?
C'est la énième commission. Les premiers exercices, ça a été les commissions sur la dette il y a une quinzaine d'années. Donc on va de commission en commission. Alors c'est un mécanisme que j'avais décrit dans un livre. La particularité de la France, c'est qu'à peu près sur tous les sujets, une fois qu'on a longtemps parlé d'un sujet, on pense qu'il est résolu. Hein. Alors l'emblème de ce sujet, de cette approche, ça reste la TVA sociale, qui est une idée française des années 90. Oui. On en discute pendant une dizaine d'années. L'Allemagne la met en œuvre en 2007. Elle fonctionne également au Danemark. On a observé ces épisodes allemands, danois. On s'est dit, ben donc l'idée est bonne. Et puis on a refermé le dossier, on l'a pas appliqué en France. Donc on continue.
C'est l'effet Borloo. Hein, Jean-Louis Borloo l'avait proposé après l'élection présidentielle de 2007. Ça avait fait perdre des dizaines de postes.
Oui, mais c'était pas le moment de l'annoncer. Mais le sujet important aussi, c'est que on sait très bien, par exemple, il y a Villeroy de Gallo, le gouverneur sortant de la Banque de France vient de rappeler le déficit récurrent du système de protection sociale. Moi, j'ai fait une proposition depuis une dizaine d'années que je répète dans mes chroniques et dans mes interventions. C'est de mettre une règle d'or sur la sécurité sociale avec interdiction du déficit de la sécurité sociale.
Il y a que, comme
dans un pays qui n'est pas capable de s'auto-réguler, il faut des règles contraignantes. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est pour ça que je dis qu'on va dans le mur avec un affaiblissement continu. Les conséquences, il faut quand même l'avoir à l'esprit. C'est quelque chose qui n'est jamais évoqué sur les flux migratoires. On parle toujours des entrées migratoires autour de 300 000, dont la moitié sont qualifiées, plus ou moins, et l'autre moitié non qualifiées. Mais on occulte complètement que du fait de cet affaiblissement, 80 à 90 000 jeunes bien formés au niveau des masters et des ingénieurs partent en Italie, même en Italie qui est devenue le quatrième exportateur mondial l'année dernière, en Allemagne, au Canada. Donc c'est une hémorragie des qualifiés. Et donc cet affaiblissement lent et mortifère qui est à l'œuvre depuis une quinzaine d'années, il continue. Donc c'est une variante du mur. Mais moi, je préférerais à ce point-là un mur qui nous oblige à faire les réformes plutôt que de continuer à s'affaiblir lamentablement.
Bruno Arcadipane, cette TVA sociale, on va parler un peu des mesures budgétaires qu'il faudra pousser dans le prochain projet de loi de finances. Cette TVA sociale, vous la proposez, au MEDEF, vous l'appelez de vos voeux.
On l'appelle de nos voeux, avec cependant un maintien, évidemment, d'une TVA extrêmement basse, comme on la connaît aujourd'hui, sur les produits de première nécessité, pour le dire de façon très claire. Et évidemment, pas de TVA sur le logement, qui est la première dépense des Français.
On va y venir.
Donc, évidemment, si on met une TVA... Si c'est une hausse de TVA, pour être clair, une hausse de TVA normale, je vois pas ce qu'elle aurait d'ailleurs de social. On imagine, on a projeté près de 18 milliards d'euros de résultats sur ce type de produit. 18 milliards d'euros, mais il faut pas.
Un point de TVA, c'est quoi? C'est 15 milliards d'euros à peu près, quoi, si on augmente.
Il faut pas s'arrêter là. On propose aussi d'autres choses. Aujourd'hui, on a une partie de nos retraités qui touchent des pensions de retraite extrêmement élevées. Est-ce que ces derniers ne pourraient pas, évidemment, là aussi, contribuer comme nous sommes un certain nombre à le faire? Mais surtout, et le plus important pour nous, c'est de repenser le financement de la protection sociale.
Oui.
Cette protection sociale, il faut quand même imaginer qu'elle a été créée dans un contexte sociétal totalement différent. Et ça, personne n'en parle, personne ne veut le prendre en compte. Et pourtant, les curseurs ont totalement changé. Et aujourd'hui, on est dans l'obligation de faire des économies. Et on finance tellement sur le travail qu'à un moment donné, on va aller vraiment à un point de rupture.
Bon, ça va être un des grands débats de la présidentielle, évidemment. Comment rapprocher le salaire brut du salaire net, ce qui pose évidemment la question de notre modèle social, Anthony.
Oui, tout à fait. Je reviens sur la TVA. C'est peut-être la moins mauvaise mesure en termes de hausse de prélèvement. Mais on est encore en train de parler de hausse de prélèvement.
On est en dessous du niveau moyen européen au niveau
TVA. C'est
vrai,
parce qu'en fait, on surtaxe les facteurs de production, le capital et le travail en France. Et on a plutôt tendance à sous-taxer légèrement la consommation, bien qu'on soit quasiment au taquet partout. Il faut bien avoir en tête que quand on gèle les allègements de charges sur les bas salaires, ça s'appelle une hausse des prélèvements. Donc en fait, c'est une taxe sur le made in France. Faut appeler un chat un chat. C'est quand même juste ça. Mais on ne parle toujours pas de baisse de dépenses. Et les quatre économistes qui vont être réunis, c'est une forme de cadrage, voire de caution, pour que le gouvernement puisse s'appuyer aussi sur le fait de documenter des baisses de dépenses. Parce que les oppositions, on n'arrive quand même jamais à débattre de baisses de dépenses publiques, ou en tout cas au moins de moindre augmentation. On est toujours en train de parler de hausse de prélèvement, ce qui est quand même quelque chose.
Donc ça va être ça l'idée, c'est de préparer un peu les esprits à faire des efforts pour les années à venir.
Avec des personnes crédibles qui soient en capacité de dire que probablement il y a un sujet sur les dépenses que manifestement toutes les entreprises savent, mais que dans le débat public, on a beaucoup de difficultés à faire passer et à acter.
Vous y croyez, Christian?
Il n'y a pas de majorité actuellement.
Ça arrive jamais, donc.
Il n'y a pas de majorité actuellement à l'Assemblée nationale pour des baisses de dépenses. Il faut rappeler le cadrage des dépenses publiques en France, c'est 57 points de PIB.
1700 milliards d'euros.
Oui, bientôt 1770. Et donc, le point clé, c'est que il faut jamais, de mon point de vue, comparer le poids des dépenses publiques à la moyenne européenne, parce que la France étant le pays qui dépense le plus, on fait fortement monter la moyenne.
Oui.
Quand on compare le dépense publique de la France à la moyenne des autres pays de la zone euro. Nous sommes 21 pays dans la zone euro. Si on compare la France aux 20 autres, on a 8 points de PIB de plus de dépenses publiques. Alors, j'ai fait des débats depuis 20 ans.
Le sujet, c'est les retraites, Christian. C'est parce qu'on n'a pas de fonds de pension. Les autres pays ont des fonds de pension.
Oui, donc mais c'est pas seulement les retraites. C'est pas seulement les retraites. 57 points de dépenses publiques, dont 33 points de protection sociale. Donc, on est à 8 points de PIB de plus que la moyenne des 20 autres pays de la zone euro, dont 5 points sur la protection sociale, dont 2,5 points sur les retraites. Donc, effectivement, il y a un sujet sur les retraites, mais il y a aussi un nombre d'allocations infinies qui d'ailleurs contribue à développer l'assistanat sans insertion. Là aussi, avec un développement, par exemple, du RSA sans contrepartie de travail, on avait envisagé de mettre en place des contreparties, mais ce n'est pas encore mis en œuvre. On a des règles sur le chômage qu'il faudrait aligner sur l'Allemagne, même dans l'intérêt des chômeurs. Hein, on le sait tous ici. Aujourd'hui, on peut rester au chômage 18 mois. C'était un peu plus il y a quelques temps. Oui. Pour les plus âgés,
c'est
2 ans. Or, il y a des études internationales parfaitement connues. Quand vous avez 18 mois pour chercher un travail, dans tous les pays, les gens se mettent sérieusement à chercher les 6 derniers mois. Or, quand vous êtes employeur et que vous voyez quelqu'un arriver qui a profité pendant un an des allocations et qui cherche tout à coup un boulot parce que ça s'arrête, ben, vous n'allez pas le prendre s'il y en a un autre qui a cherché du boulot juste après la fermeture de son entreprise ou la réduction d'emploi dans son entreprise. Et donc, les gens vont se retrouver gros gens comme devant, c'est-à-dire qu'ils vont aller la tête enfarinée chercher un emploi et l'employeur va dire ben, « ça fait 18 mois que vous ne travaillez pas, pourquoi je vous emploierai ?» Donc, la règle en Allemagne, c'est 1 an de prestation. L'autre point fondamental, c'est qu'il faut avoir travaillé 6 mois pour toucher les retraites. En Allemagne, il faut avoir travaillé 1 an. Si vous faites ce genre de réforme, vous avez une 15aine de milliards d'euros d'économie. Dans les collectivités locales, on a 10 points de dépenses au niveau simplement des communes et interco. Là, il y a vraiment une 10aine de milliards à trouver également.
On est à 25
voilà.
milliards.
Vous savez peut-être pas, mais la France a la moitié des tennis et des piscines de l'Union européenne. Alors, c'est très agréable, mais à un moment donné, est-ce qu'on peut se le payer? Voilà. Donc, il y a une réflexion sur la nature des services publics à rendre.
La France est un paradis où tout le monde croit vivre en enfer, hein, comme le dit Sylvain Tesson, cher Christian. Un dernier mot, allez, Bruno, sur cette réforme de l'assurance chômage qui est restée dans les cartons. Gabriel Attal l'avait mise en place pour resserrer un peu. C'est quelque chose que vous appelez de vos voeux au MEDEF?
Ah, totalement, totalement. D'ailleurs, il ne vous a pas échappé que on a déjà démarré nos travaux sur la présidentielle. Pour l'instant, on ne reçoit que les chefs de groupe, puisqu'on attendra un peu, évidemment, pour recevoir les candidats à la présidentielle. Mais ce sont des sujets.
Ils vous ont convaincu, vous les avez vus, vous faisiez partie des réunions.
On a vu Gabriel Attal, mais on a vu Édouard Philippe, on a vu Monsieur Roussel, enfin on a vu
Jordan Bardella,
un certain nombre. On les verra tous de toute façon. Et à chaque fois, ces sujets reviennent. Et il est clair que la première économie qu'on doit faire, c'est celle de que l'on ne dépense pas. Il faut arrêter en permanence de vouloir créer des impôts, d'augmenter ces derniers ou de baisser les allègements, ce qui revient exactement à la même chose, pour ne jamais regarder le problème en face. On doit s'attaquer aux dépenses de la sphère publique et aux dépenses sociales qui sont, de façon générale, le problème majeur de notre pays.